Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans le deuxième volet d'une émission Biotop consacrée à la renaissance d'une filière laine. Toujours avec Margot, Véronique, Marie et Vincent, avec qui on a surtout abordé la semaine dernière les différents éléments qui font que c'est assez compliqué quand même de faire renaître une filière laine. Et on s'est en particulier attaché à la matière première, la laine, qui malheureusement n'est pas toujours très bien valorisée de nos jours. Et on espère bien que ça change à l'avenir. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux raisons qui nous feraient espérer, en particulier votre motivation et aussi à la viabilité économique d'une filière à petite échelle. Rebonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette filière? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette matière?
Bon, alors ce qu'on peut peut-être dire, c'est que la question du textile en général, c'est un vrai enjeu actuellement à échelle mondiale. Peut-être qu'en tout cas, une des motivations, c'est une motivation vraiment idéologique par rapport à ce qu'est actuellement le textile, qui est produit donc en grande majorité dans les pays asiatiques, avec des ressources qui sont souvent, que ce soit des fibres animales ou végétales, produites dans des conditions qui sont écologiquement très contestables. Ensuite, transformées avec des outils et des produits qui, pour les mettre en forme, vont être eux aussi avec des impacts écologique très fort, notamment autour de la question de l'eau, etc. Et en plus, ensuite, au niveau de la transformation, tout ça s'est réalisé dans des usines qui emploient des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement dégradées et mauvaises, qui sont proches, dans certains cas, d'esclavage, avec aucun droit, disons, les plus élémentaires du travail qui soit vraiment reconnu. Donc tout ça, ça permet de se questionner sur qu'est-ce que c'est le textile, qui est ensuite un peu la seule... Enfin, on est un peu pris au piège parce qu'en fait, on est parfois obligé de s'habiller de manière à pouvoir aller fréquenter les gens dans les villes et dans des contextes où il faut qu'on puisse être présentable. Et donc, on est assujetti à consommer le produit de ce système qui est planétaire, qui est économiquement très, très puissant, pour lequel, pour l'instant, les alternatives n'ont pas encore été vraiment mises en place. Et c'est l'idée, je pense, qui préside aussi à la volonté de mettre en route quelque chose d'autre.
Et vous pensez qu'un autre modèle est possible? Sinon, nous ne serions pas là en train d'en parler.
Un autre modèle est possible, mais il nécessite de changer notre rapport aux choses, et notamment à l'habillement. On a déjà fait un petit peu ce pas-là sur l'alimentation. Voilà, on est capable aujourd'hui de réfléchir à ce qu'on mange. Le système mondial agricole, il produit encore à peu près 3 fois ce qu'on consomme, donc il en jette une bonne partie. Le système mondial textile, il produit 200 à 300 fois ce dont on aurait besoin de se mettre sur le dos. Donc là, on en jette vraiment beaucoup. On jette beaucoup de pétrole là-dedans. Moi, ça me semble possible. En fait, je pense que dans mon histoire, les 7 ans que j'ai passés en Bolivie auprès de communautés indiennes andines, qui transforment intégralement les toisons de leurs bêtes. Donc, ils gardent. Les femmes, elles gardent. Elles vont travailler au champ. Elles ont les enfants dans le dos. Elles aident à la tonte. Elles lavent la laine. Elles filent. Elles tissent. Elles s'habillent avec ce qu'elles tissent. Alors, c'est sûr, ça implique qu'il ne faut pas espérer changer d'habit tous les jours. Mais moi, ça m'a permis de prendre conscience du fait qu'il y a à la fois une possibilité de... travailler la matière, de tendre vers plus d'autonomie et plus de sobriété, et puis que tous les gestes au cours d'une transformation, ils ont un sens, et que le produit qu'on fait, le tissage final, il a vraiment un sens, et que le travail artisanal, c'est quelque chose, je pense, en fait, mon combat, c'est d'arriver à démontrer que ce travail artisanal, il a un sens. Au-delà du folklore, il a vocation à nous vêtir décemment et à participer de notre économie.
Pour ma part, même si c'est un peu exceptionnel, et oui, je suis une exception de ce point de vue, la motivation essentielle est que la production de laine est sans doute la seule production animale qui permette d'éviter de tuer les animaux. C'est pas forcément la préoccupation de tout le monde, mais quelque part je rejoins les autres motivations où il s'agit ni d'exploiter les humains ni d'exploiter les animaux en faisant ça.
Alors moi, ma motivation c'est d'avoir un coup de cœur pour cette matière qui est la laine brute au départ, donc la toison brute, et la transformation de cette matière, et le constat que localement c'était vraiment traité comme un déchet. Alors que la laine, qui est une matière noble, écologique, et qui peut tenir des années si le produit est bien fait au départ, soit traité comme un déchet alors qu'effectivement on consomme du textile en fibres synthétiques à haute dose et pour un moindre coût. Vraiment, mon moteur, c'est ça. Et c'est que travailler la laine, c'est une passion pour moi, mais j'ai envie que ce soit le plus possible de la laine locale.
Alors, on a déjà vu lors de la précédente émission que ce serait très difficile ou très utopique de créer une filière laine à grande échelle et qu'on travaillerait sans doute avec des moyennes petites quantités. Mais alors, concrètement, localement, qu'est-ce qui serait possible? Que préconiseriez-vous? Comment faire en sorte que tous les acteurs qu'on a un petit peu cités tout au long de cette filière laine puissent imbriquer les uns dans les autres, produire un certain nombre de vêtements qu'on puisse mettre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou alors peut-être qu'est-ce qui est fait de nos jours?
On peut juste replacer la question des différents niveaux qui verrouillent un peu les différentes possibilités. D'une part, soit on fait une production qui est domestique et qui revient peut-être à ce qu'évoquait Margot sur une production qui est inclue dans un mode de vie où on va transformer pour soi-même et habiller sa famille. Et ça, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent avoir envie de développer pour elles-mêmes. Après, on peut imaginer qu'il y aura une partie de la population qui y sera sensible, aura l'attirance, mais n'aura pas forcément dans le temps la compétence ou la durabilité pour le faire. Donc du coup, là, il y a un travail à faire de transmission pour donner des moyens à chacun de peut-être pouvoir se réapproprier ses pratiques. Après, il y a un deuxième niveau qui est... celui des petites échelles, mais en mutualisant. Et donc là, on est sur du réseau, de la connivence entre les acteurs pour que quelque chose puisse se faire. Et on a toujours un petit problème d'outils qui fait que quand on change de niveau, on doit aussi développer des nouveaux outils. Donc dès qu'on veut passer au-delà d'un certain volume, on est obligé de s'organiser à plus grand nombre, avec plus d'outils.
Moi, j'y crois qu'à moitié sur le fait qu'il y aura toute une partie de la population qui voudra jamais se mettre à tricoter ses propres vêtements.
Oui,
hein.
Oui,
ça,
oui.
Ça, c'est sûr. Hein.
Mais par contre, changer son mode de consommation et donc investir dans un pull qui va être d'une centaine d'euros, mais qui va tenir longtemps dans le temps et on ne va pas en acheter quatre, on va en acheter un. Ça, il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent à changer le mode de consommation de la même manière qu'on l'a fait. Côté alimentation, ça se met petit à petit en place du côté du textile.
Donc ouais. Moi, je vais sur des marchés et je vends des vêtements, des pulls, des vestes, des gants, des chaussettes que je fais faire avec la laine de mes brebis. Et bien sûr que quand je suis sur un marché avec des produits qui sont quand même assez coûteux, c'est pas évident de rencontrer l'acheteur, quoi. Et c'est quelque part un achat de conviction qui fait cet acheteur. Ces convictions, elles sont nourries par la réflexion dont on a parlé, là, sur l'exploitation qui existe dans le textile, etc. Elle est aussi nourrie par un lien, je pense, un peu ancestral, quoi, que chacun d'entre nous a avec les matières naturelles, comme la laine. Donc il y a des gens, bien sûr, qui ne vont pas forcément se mettre tous à tricoter, mais peut-être que ça va les intéresser de faire un atelier pour connaître mieux la laine, en entendre parler et la toucher avec leurs doigts. Je vois les petits-enfants sur les marchés, ils adorent venir tripoter ça. Ça les interroge, ils sont curieux, et parfois effrayés et parfois très attirés. Et au travers de leur propre rencontre avec la matière, c'est une idée qui va faire un chemin dans leur esprit de, éventuellement, un jour, s'acheter un pull dans laine. Parce qu'au bilan, ils comprennent aussi que c'est peut-être pas complètement idiot, quoi.
Il y a peut-être la démarche, en fait, dont on a peut-être un peu parlé déjà, mais qui est assez importante, en tout cas dans l'activité de Véronique et aussi dans la mienne, de pédagogie et de transmission qui permet à la fois, donc... potentiellement d'éveiller des envies d'être soi-même créateur, mais pas forcément. C'est surtout une conscience de ce que c'est vraiment un textile, de mesurer la durée, le temps, l'exigence de chaque étape, le nombre de ressources en lien, et du coup de pouvoir se dire qu'un pull qui va effectivement peut-être être plus cher, mais qui va avoir toute cette valeur-là, c'est quelque chose de précieux, et du coup qui donne un autre sens aux vêtements, et de permettre donc à un plus grand nombre de personnes de rentrer dans ce regard-là, au lieu d'être dans du jetable ou du quasi-jetable, à moitié en pétrole, enfin des choses qui n'ont pas de sens.
Je fais partie de marché de la Toison d'Art. C'est une association sur Cré qui est intéressante parce qu'elle regroupe à la fois des producteurs comme moi, producteurs de laine de brebis ou de mohair par exemple, ou d'alpaga, etc. Et donc des gens qui vont vendre un produit d'habillement quand même assez classique, quoi, hein, quelque chose qu'on peut mettre tous les jours, mais aussi des artisans d'art, quoi, hein, des gens qui ont une technique extraordinaire, soit dans la teinture, soit dans le tissage, le feutre, etc. Et qui vont proposer des objets ou des vêtements un peu exceptionnels à des prix qui sont évidemment un peu exceptionnels aussi. Et puis il y a aussi dans ces marchés toujours un côté animation. Tout ça, ça fait le lien entre différentes directions qui sont pas contradictoires. Le fait de s'habiller tous les jours avec un pull, c'est pas contradictoire à avoir un beau vêtement aussi pour faire la fête ou je sais pas quoi, pour le plaisir. Et donc, c'est une convergence entre différents acteurs.
Là-dessus, sur tous ces aspects de sensibilisation, de pédagogie, Vincent a parlé de la Toison d'Art qui permet en fait de, via les produits, de faire connaître un travail, je pense, et un savoir-faire. Je pense qu'il faut aussi qu'on cite l'Atelier, qui est une association qui a maintenant 25 ans, donc qui est née en France à l'initiative de quelques éleveurs, d'un ancien expert lainier et de tondeurs qui ont fait le constat de la déliquescence de cette filière laine et de la nécessité de travailler en fait à plusieurs échelles pour maintenir le sens du travail de la laine. Du coup, Atelier Laine d'Europe, c'est une asso qui travaille au niveau régional, enfin européen aujourd'hui, basée à Chantemerle, et qui a pour mission de faire le lien entre des éleveurs, des tondeurs, des transformateurs, qu'ils soient industriels ou artisanaux, des utilisateurs de la laine, donc des feutriers, des artisans textiles, des créateurs de mode aussi, des personnes qui utilisent la laine dans d'autres domaines que juste l'habillement. Donc il y a tout ce qui est en isolation, bon, même si c'est un peu controversé, mais en tout cas dans l'habillement de la maison aussi. Et voilà, l'atelier organise à la fois des stages, des formations sur le travail de la laine, participe à la formation des tondeurs via l'association des tondeurs de moutons, édite un bulletin annuel qui synthétise différentes initiatives autour de la laine. Et puis, pour le grand public, est présent dans beaucoup de foires, d'expositions, à la fête de la laine à Cré tous les ans. Ils ont même monté une exposition de grande ampleur, l'exposition Wolves of Europe, qui présente plus d'une centaine de races de moutons, avec pour chaque race à la fois le contexte d'élevage du mouton, la toison brute et puis un produit fini réalisé à partir de cette race, et toujours en citant à la fois des éleveurs, des transformateurs. Et cette expo, elle a circulé depuis 2 ans, elle a été exposée à Paris, à Biella en Italie, maintenant elle va être exposée à Toulon. Et ça permet de faire prendre conscience au grand public de la richesse de cette matière et de tout ce qu'elle implique en termes de liens humains et techniques.
Alors tu parles de liens, c'est très bien, parce que j'ai bien compris que tous ces acteurs isolés ne pourraient rien et qu'il est important qu'effectivement ils travaillent ensemble. Cette filière ne s'en sortira pas si elle n'est pas unie et s'il n'y a pas des réseaux de compétences qui s'entremêlent.
Ouais, tout à fait. J'ai une démarche individuelle d'une certaine manière, puisque donc j'élève mes brebis, je récolte ma laine et après je fais faire le travail par d'autres gens pour pouvoir vendre mes produits. Mais même si pour des raisons techniques c'est compliqué pour moi de regrouper ma matière avec d'autres, ma démarche elle s'inscrit dans le réseau, notamment le réseau de l'atelier, puisque pratiquement tous les acteurs avec qui je travaille, depuis le lavage de laine à Saugues, la filature Garotte à Castres, le pastram, tous ces gens-là, ce sont plus ou moins des gens qui sont proches de ce réseau. et qui ils gagnent leur vie en faisant ça, bien sûr, mais ils ont aussi une attention particulière pour des petits comme moi qui sont pas certainement fondamentaux pour leur survie, mais ils sont conscients aussi qu'il y en a de plus en plus et que mis bout à bout, petit à petit, ça peut permettre un nouvel essor de cette filière au point de vue national, quoi.
Et tu es optimiste à ce titre, Vincent ? Tu as donc pu constater, par rapport à il y a 10, 15, 20 ans, il y a une résurgence de cette filière naine, même si c'est à petite échelle ?
Voilà, oui. Je travaille avec Eric Carlier au Pastram, qui fait du tissage, et qui au départ travaillait essentiellement avec du mohair, et pour la SICA mohair, qui est un organisme national qui regroupe les producteurs de mohair français, et qui me dit lui-même qu'il s'intéresse à nouveau à la laine de mouton maintenant, parce que des initiatives comme la mienne, il en connaît plusieurs, soit isolées, soit collectives, à des petites échelles, quoi, quelques dizaines d'éleveurs, ou moins d'une dizaine même, qui lui amènent du produit pour faire eux-mêmes la commercialisation ensuite du produit.
Bon, donc en fait, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, Vincent, sur la fin de la filière, le tissage, moi je suis aussi sur la fin, je suis dans les derniers maillons, avant tissage en général, la teinture. Et en tout cas, à mon échelle, ce que je vois, c'est que moi je suis à très petite échelle, je suis à une échelle artisanale, mais je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de demandes de teinture en teinture végétale, pour plein de raisons, notamment éthiques, écologiques, et aussi d'appréciation, de savoir qu'une couleur, c'est une plante, etc. Et qui aurait potentiellement, je pense, dans les mêmes clients potentiels, un intérêt pour de la laine locale et pour des process visibles, compréhensibles comme ça. Simplement, pour l'instant, peut-être que c'est pas encore tout à fait connecté, donc il y aurait besoin de peut-être de liens là-dessus. Et inversement, moi, ça me pose la question de savoir est-ce que je change d'échelle pour justement pouvoir répondre à quelque chose de plus large, ce qui permet de, effectivement, teindre de plus grandes quantités, baisser aussi les coûts, etc. Et ça, c'est un vrai enjeu, à la fois en termes d'investissement et de type d'activité. Et je pense que c'est un peu le même problème pour les tisserands qui vont aussi être soit sur des métiers mécaniques, soit sur du métier à bras. Enfin, on change de... Et donc, on est aussi dans le développement de cette filière sur la question de savoir si on reste sur du petit artisanat, du coup, avec des coûts qui seront plus importants, ou est-ce qu'on peut donner le tour et avoir des choses aussi un peu plus rentables. Un exemple de ça, c'est que, par exemple, avec Margot, qui est là, on essaye de valoriser sa laine par la teinture végétale, et donc, du coup, proposer des nuances de couleurs issues de plantes qui seraient plutôt locales, sur une laine locale, et ça va être commercialisé au Beauchêne, dont Margot va pouvoir parler maintenant.
Voilà, parce que en fin de course, il faut quand même qu'on arrive à vendre nos produits pour ceux qui produisent. Vincent, lui, il a parlé des foires qu'il fait. En fait, tu travailles pas mal avec...
Donc, moi, j'ai parlé des foires que je fais avec la Toison d'Art, notamment. Donc, où là, c'est une organisation collective pour la vente. C'est des foires en extérieur, de ville en ville, qui se passent en été, avec un gros pôle principal à créer au mois de février. Et après, donc, il y a des boutiques collectives, où, comme la boutique de Saint-Julien-en-Beauchêne, dans laquelle je dois rentrer aussi, quoi.
Voilà. Parce qu'effectivement, la commercialisation, ça reste un point un peu délicat de la valorisation de cette matière, parce que c'est une matière chère. Et on la commercialise pas de la même manière que des courgettes. Souvent aussi, la mutualisation ou la notion de réseau, elle intervient à ce niveau-là aussi. Donc, Vincent, il a parlé des foires, de la Toison d'Art. Il y a d'autres initiatives, plus de boutiques collectives qui se sont montées. Donc, il y en a une qui a 20 ans d'existence déjà, c'est Création du Beauchêne. C'est un point de vente collectif monté par des éleveurs de bêtes à laine dans la vallée du Buëch. Là où il y a un éleveur d'alpaga, un éleveur de lapin angora, qui est sur le territoire de la Biovallée d'ailleurs, un éleveur de chèvres cachemire, deux éleveurs de chèvres mohair, et moi j'y suis rentrée avec mon compagnon en tant qu'éleveur de brebis mérinos. En fait, c'est un magasin qui a gagné une notoriété au cours du temps, justement par la qualité des produits, la qualité des pelotes, du fil qui est proposé. Et c'est ce qui permet de contribuer à tout ce travail de sensibilisation auprès des gens sur le fait que, oui, déjà, la laine, ça gratte pas forcément. Et en plus, la laine, c'est une matière sympa à tricoter. C'est une matière qui peut vraiment nous habiller et qui peut permettre de créer des pulls qui durent dans le temps. Plus récemment, là, à Die, Il y a Véronique et d'autres amis qui ont monté une autre structure collective qui là réunit aussi des artisans, c'est les agités du local. Et moi, j'y dépose aussi notre laine et Véronique, tous ses produits.
Voilà, et on peut aussi... Et en plus, du coup, aux agités du local, il y a ce volet de transmission, c'est-à-dire la transmission des savoir-faire et des techniques pour ne serait-ce que réapprendre à tricoter ses propres vêtements, même si on ne produit pas son fil soi-même, on peut en acheter à la boutique. Et sinon, on peut aussi parler de l'entrepôt, qui est là, pour le coup, un dépôt-vente, mais où il y a aussi des...
Ouais, où je mets des produits à l'entrepôt, donc ça me plaît bien d'aller dans cette boutique parce que c'est plutôt une boutique d'artisanat d'art, donc c'est très beau tout ce qu'on y voit, y compris de l'art tout court, pas forcément artisanal. Donc moi, je vends mes chaussettes à l'entrepôt.
Peut-être qu'on peut aussi évoquer la Fée Clochette qui ne vend pas que des laines locales, mais qui quand même ponctuellement, il y a eu des échevaux de teinture... de Marie qui ont été en vente, et puis elle fait quand même toute une démarche pour avoir les produits les plus locaux, de la laine de la Creuse, de la laine d'Ardèche.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle a aussi cette ouverture pour accueillir des produits locaux, même si après elle a globalement plein de choses qu'elle va acheter ailleurs.
C'est tout à fait passionnant, genre damoiselle et damoiseau. Si un déclic devait se passer dans cette filière qui vous fasse réellement espérer, pas son décollage, parce qu'on a toujours dit que ce serait des petites quantités, mais quand même une pérennisation ou une viabilisation de cette filière, qu'est-ce que vous attendriez? Quel serait votre espoir?
Moi, j'ai l'impression que c'est déjà un peu en marche, ça se fait pas à pas, mais que le fait de consommer différemment sur du durable... Il me semble que ça se fait déjà un peu, mais alors le propager encore plus, peut-être en apprenant à refaire soi-même ou à recontacter la matière.
Moi, je pense que la première chose, c'est que les différents maillons de la chaîne ne s'éteignent pas. En fait, on est quand même extrêmement tributaire des usines de lavage, des usines de cardage, et on a l'impression que là, il y a un vrai renouveau. Je crois que quand même, c'est fragile et c'est précaire. Et là, Biella, sur les 2 ans où j'ai travaillé avec eux, on a vu fermer des usines. Alors, je ne voudrais pas faire un oiseau de mauvais augure, mais ce que je veux dire, c'est déjà la première chose, c'est que ce qui est en place ne s'éteigne pas. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, c'est de continuer justement qu'il y ait un travail déjà dès la base pour approvisionner ces outils et qu'ensuite, il y ait des gens comme Véronique, comme Marie... qui soit là en aval aussi pour rendre ces choses accessibles, déjà intellectuellement, sensiblement, et puis ensuite économiquement aux gens.
Oui. Disons que ce que moi j'ai envie de dire, c'est que d'un côté, on a le sentiment quand on est dans le domaine et qu'on rencontre plein de gens très passionnés que c'est en marche, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, je pense qu'il y a une vraie sensibilité qui est émergente. Après, elle concerne pas tout le monde. Et effectivement, je pense que le premier déclic à souhaiter, mais qui pourra pas se faire en un jour, c'est celui de toucher un public plus large, de modifier les consciences et d'être vraiment sur un autre rapport à la consommation. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter pour plein d'autres domaines, mais aussi pour celui-là très fort. Et peut-être pour soutenir ça et valoriser ça, il y a aussi tout un enjeu économique de mettre en route, de donner le tour, de pouvoir effectivement s'installer, s'organiser. Faire des liens. Et là, avec un soutien, disons, des pouvoirs publics, une reconnaissance du travail des gens qui vont être à des petites échelles, mais qui vont faire un travail très, très précis ou exigeant, ça pourra effectivement permettre de rendre visible l'existence de ces initiatives et de leur donner aussi les moyens d'exister en ayant, disons, les moyens matériels ou de communication pour exister et se faire connaître et se faire reconnaître.
Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Je crois que un de nos problèmes majeurs, c'est d'arriver à vendre nos produits, ça c'est clair. Et donc, arriver à toucher les gens qui sont intéressés et faire en sorte que cette démarche se développe, quoi.
Mais c'est justement pour ça qu'on fait ce type d'émission au Vincent. Je vous remercie d'être passé à la radio pour parler de cette filière laine. Et moi, je vous souhaite qu'elle fleurisse et embellisse, ce qui pourrait effectivement dire qu'il y a un vrai changement de conscience.
Merci Louis.
Merci.
Merci.
À
très
bientôt. Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Pour terminer ce cycle sur la recréation éventuelle d'une filière laine, nous allons donner la parole à Julien Lassalle qui continue l'activité aux établissements Lassalle-Ledit et qui fabrique des matelas en laine. Monsieur Julien Lassalle, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous un petit peu de cette activité de confection de matelas laine.
Chez nous, elle existe depuis 1935. On est une entreprise familiale qui se transmet depuis 4 générations. Donc moi, je suis la 4e génération. Et c'est vrai que depuis le début, on fabrique du matelas de laine et du sommier tapissier qui est assorti au matelas de laine. Aujourd'hui, l'activité du matelas de laine perdure encore dans le Diois grâce à la Biovallée et à ses acteurs qui nous demandent encore ce type de couchage. Grâce à eux, on arrive à maintenir un peu l'activité. La laine aujourd'hui que l'on travaille pour nous provient du Haut-Diois. Elle est ramassée par un grossiste qui l'emmène dans le Limousin pour la traiter et l'étuver. Et elle nous revient complètement lavée, dégraissée et prête à l'emploi. Donc cette laine, quand on la récupère, nous on la passe quand même dans la cardeuse pour pouvoir l'aérer, lui donner du gonflant, du volume, afin de pouvoir proposer des matelas de laine assez épais. Donc aujourd'hui, cette laine est une laine de mouton blanche, bon, la traditionnelle qu'on a dans le Diois qui est très propre. Ces matelas, on les fait dans des tissus 100% coton, qui nous sont fournis par des tisseurs français. Les matelas de laine aujourd'hui sont confectionnés par 2 personnes. Il nous faut à peu près une demi-journée pour faire un matelas à 2. Entre le moment où on récupère la laine, on la carde, où on monte le métier, on monte la laine et on ferme le matelas. Tout ce qui est bourrelé et point, c'est tout piqué à la main. Au niveau de la demande, aujourd'hui, on a sur l'activité, on réalise à peu près 3 matelas de laine par mois. Donc auparavant, on en faisait 3 par jour. Il y a quand même un bon ralentissement. Mais cette demande est toujours présente. De plus, maintenant, étant donné la perte, quand même au niveau national, des fabricants de matelas de laine, on a encore cette clientèle traditionnelle qui a l'habitude d'aller réclamer leur matelas chez le tapissier d'ameublement. Donc on a une grosse clientèle maintenant de tapissiers d'ameublement qui nous réclament du matelas de laine et on produit également pour eux. Le matelas de laine, à la différence, c'est un couchage qui reste quand même chaud l'hiver et frais l'été. Après, c'est un confort qui marche avec le sommier adéquat, ça il ne faut pas l'oublier, ça, c'est très important. Mais c'est un confort qui est très douillé et très enveloppant. Après, ça a évité quand même au niveau des allergies. Il faut penser régulièrement à aspirer le matelas, les bourrelets, parce que très souvent, on a une accumulation de poussière entre les bourrelets et le piquage. Et on peut avoir des acariens et des mites qui peuvent venir. Si vous aspirez régulièrement, il n'y a pas de problème à avoir. Après, ce qu'il faut faire attention, donc là, on parle sur une laine qui est neuve, qui a été stérilisée à la base. Mais très souvent aussi, on fait des matelas à partir de la réfection. Donc les personnes nous ramènent du matelas de laine ancien que nous on va carder et qu'on va réfectionner. Donc après là-dessus, c'est vrai qu'au niveau d'allergie, il n'y a pas de stérilisation qui a été faite ou des choses comme ça.
Alors avec la réalisation de 3 matelas par mois, c'est une activité qui est très épiphénoménale, qui ne vous rapporte pas grand-chose alors ?
Non, exactement. Nous, l'activité, celle-là, on la conserve parce que c'est ce qui a fait un peu notre réputation au niveau du magasin et dans le Diois. On la conserve également parce que ça reste un plus pour l'activité. Et puis nous, notre activité est faite de petites choses mis bout à bout comme ça, tout simplement.
Alors si d'aventure des gens étaient intéressés par votre activité, accepteriez-vous de donner vos coordonnées ?
Oui, 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 04 75 22 00 42. Ou sinon, ils peuvent nous contacter également par mail à contact@julien-lassalle.com.
Et vous êtes à l'entrée de Die.
Nous sommes situés à l'entrée de Die sur l'avenue de la Clairette au numéro 135.
Je vous remercie, monsieur Lassalle.
Merci bien.